depuis que je suis au monde. Ce depuis me paraît chargé d'une signification si effrayante qu'elle en devient insoutenable. Ce sont les premières lignes de l'inconvénient d'être né. Un essai philosophique écrit par Émile Cioran, un philosophe du XXe siècle. Donc d'abord, je vais vous présenter un peu Émile Cioran. Donc c'est un philosophe du début du XXe siècle dont la philosophie se rapproche un peu du nihilisme et qui, à travers cet ouvrage, va présenter en fait l'origine, la racine du mal. Et donc cet ouvrage est composé de 12 chapitres qui sont même composés de sortes de petites citations, de petits paragraphes qui n'ont pas vraiment de lien entre elles. À travers cette critique de la naissance, Cioran va aborder plusieurs notions et j'en ai sélectionné trois principales, trois ou quatre principales notions, où j'ai regroupé un peu ce que j'avais compris. Donc tout d'abord, sa principale thèse, en quelque sorte originale, c'est l'espace-temps qui est antérieur à la vie. Et donc, on peut lire sur la quatrième de couverture à ce sujet, « Liberté, bonheur, espace. Ces termes définissent la condition antérieure à la malchance de naître. » Et donc, selon lui, la source de toutes les douleurs proviennent la source de toutes les douleurs provient de l'existence et de la conscience. C'est-à-dire que si on ne naît pas, on n'a pas accès à cette douleur et on a uniquement accès au bonheur et l'ensemble des possibilités est réalisable. Et il nous dit notamment que vivre est une expérience traumatisante avec pour seule réalité la douleur. Et donc là, il va vraiment au bout de cette idée du fait que vie égale tourment. Et donc c'est à partir de cette idée qu'il conçoit une certaine philosophie de vie, mais on pourrait plutôt dire que c'est une philosophie de non-vie, puisque ses principales valeurs sont la procrastination, l'inaction, et le renoncement à tout, et surtout en fait le détachement, parce que pour lui, l'attachement primordial, c'est la naissance. Et donc, le plus important pour bien, en quelque sorte, réaliser sa vie, c'est de se détacher de la naissance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va valoriser l'échec, puisque pour Cioran, il faut apprendre à être perdant. Voilà. Gagner, réussir, c'est au final s'attacher à davantage de choses, et donc se rapprocher de l'origine de ses douleurs de la naissance. Et il faut aussi avoir la liberté de ne rien perdre. Et donc pour lui, la seule liberté de ne rien perdre, c'est de se déposséder totalement. Et c'est vrai que dans le mode de vie propre à Cioran, il vivait lui aussi dans une sorte de frugalité. Et pour lui, ceci est la seule manière de nous voir comme Dieu nous voit. Donc c'est une petite transition vers la deuxième notion qu'il aborde, qui est la religion. Et donc, pour ce philosophe, comme pour beaucoup d'autres, la notion de religion est assez difficile pour lui, et contrairement aux autres notions que je vais vous présenter, il n'a pas d'avis manichéen. Parce qu'il éprouve un besoin d'y croire, et si pour lui il est clair que la religion est nécessaire à l'homme, et il va même en dire que c'est la solution la plus satisfaisante qu'il ait trouvée. Il cite beaucoup de religions différentes, comme le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Mais après, il va directement les réfuter pour montrer qu'aucune d'elles n'est bonne à suivre. Et il dénonce également la perte d'intérêt spirituel donc pour les religions dans les sociétés occidentales. Et donc c'est comme on en avait parlé en classe sur le fait que les églises étaient de moins en moins pleines après les grandes guerres, etc. Et donc lui, il va également en parler. Et donc je vais rattacher un peu cette notion de religion à la notion de philosophie, parce que certaines fois on oppose religion et philosophie. Et donc il va souvent citer des philosophes comme Hegel, mais en les critiquant, notamment sur le système, etc. Il va avoir vraiment un regard de critique destructrice, de critique tout le temps négative sur les autres philosophes, sur Aristote également. Et donc, petite transition grâce à Aristote sur la politique. Donc, il ne va pas faire de notion générale sur la politique, mais il va essayer d'analyser les systèmes politiques. Et donc, ça, c'est surtout au chapitre 8. Donc, il analyse les diverses nations et systèmes depuis l'Antiquité et même avant, avec les Aztèques, les Latins, les Grecs, les Français, les Allemands, les Turcs, les Anglais, etc. Et il analyse aussi les grandes guerres, les révolutions et les querelles idéologiques. Et donc c'est vrai que c'était assez difficile de synthétiser tout ça parce que il prend vraiment des cas très, des cas, comment dire, très concrets qui ne peuvent pas s'appliquer de manière générale, mais il explique, notamment au sujet des révolutions, que chaque nation a le droit uniquement à une seule révolution, dont elle sera totalement tributaire durant toute son histoire. Et il prend comme exemple la révolution de 1789 pour la France, et dont les Français feront toujours allusion par la suite. Et on dit aujourd'hui notamment la France, le pays des droits de l'homme, comme s'il n'y avait qu'une seule association. Il prend pour l'Allemagne la réforme et pour la Russie la révolution bolchévique, qui a marqué un tournant dans l'histoire du pays. Et donc concernant les régimes politiques à proprement parler, il semble faire le procès de tous les systèmes en place à son époque et prône un système de supériorité. En effet, il dit que, ouvrez les guillemets, tant qu'une nation conserve la conscience de sa supériorité, elle est féroce et respectée. Dès qu'elle la perd, elle s'humanise et ne compte plus. Et donc, cela peut se rapprocher du fascisme, en quelque sorte, une autorité qui est féroce et respectée. Et dans cette partie, il rejette également les différentes formes de savoir et de progrès. Car pour lui, par exemple, le despotisme éclairé est en fait juste une forme d'acceptation d'un pouvoir au niveau de la conscience. Le citoyen éclairé a conscience qu'il est sous un contrôle, mais que finalement il ne peut rien y changer, tout comme il serait sous le contrôle d'un régime totalitaire. Il ne pourrait rien y changer non plus. Donc la dernière notion que j'aimerais aborder, c'est une certaine haine envers les hommes, et finalement le vivre en société, c'est quelque chose qui va être vraiment très différent de Turan. En effet, il témoigne d'une misanthropie, puisqu'il dit détester les hommes, et cela provient notamment du fait qu'il rejette tous ceux qui n'abondent pas dans son sens, donc finalement sûrement pas mal de gens, et donc pour lui, l'amitié n'est qu'une déception. Ça pour plusieurs raisons. D'une part à cause de la société de conversation, comme il l'appelle, qui pousse les hommes à entre guillemets, se dépenser dans des conversations autant qu'un épileptique dans ses crises. Et donc cette affirmation qui est assez drôle au demeurant, montre que les conversations sont des sortes de ragots, de choses assez vaines, qui sont inutiles. Il pourrait les enlever, ça n'apporte pas quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'utile. Et il va aussi rajouter à cela, parce que l'amitié est à l'origine de nombreuses blessures. Donc, vu comme il l'aborde dans son essai, on peut imaginer qu'il a été souvent trahi, ou alors qu'il a eu des moments marquants dans sa vie, parce qu'il répète dans plusieurs chapitres au milieu de thématiques qui n'ont a priori rien à voir, comme notamment dans la foi, sur la foi et la religion. Il explique que l'amitié est comme un pieu qui le martyrise. Et bon, c'est vrai qu'à travers cette explication sur l'amitié et les gens, vous devez vous dire qu'il plagie en quelque sorte l'enfer, c'est les autres de Sartre. Et c'est vrai qu'après quelques recherches, j'ai remarqué qu'ils se sont beaucoup côtoyés, notamment au Café de Flore. Et donc là, je vais conclure, parce que c'est un peu long en fait. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à lire. Et de temps en temps, en fait, c'est des citations qui font réfléchir et qui me semblent très importantes d'avoir lu parce que ça donne une autre vision de la vie, certes plus noire, mais quand même tout à fait intéressante. Et donc, je vais vous lire la citation qui résume, à mon avis, le mieux l'œuvre. Nous ne courons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance.